Chapitre 3. Marthe. Le vent venait de se lever brusquement du côté de l'ouest, chassant devant lui de gros nuages plombés qui s'entassaient au-dessus de nos têtes. Nous étions menacés d'un de ces orages de pluie qui remplacent dans nos provinces occidentales les orages neigeux de l'Écosse. Je connaissais par expérience ces espèces de trombes nommé dans le pays Akka ou Abado, et j'avertis mon compagnon, qui depuis un instant regardait aussi l'horizon avec inquiétude. Il était douteux que nous puissions éviter tout l'orage, mais, en faisant diligence, nous avions l'espoir de sortir bientôt de la région pluvieuse qui n'embrasse souvent qu'un espace assez rétréci, et d'en être quitte pour un grain. Nous nous hâtâmes en conséquence de repasser la bride sur le cou de nos montures et de nous remettre en selle. Mais au moment de partir, le cheval de l'avoué refusa de prendre le galop, et nous nous aperçûmes qu'il boitait du pied droit. Examen fait par Maître Jean, il se trouva qu'il était déferré et assez blessé pour ne pouvoir marcher qu'au pas. Pendant que, désappointés par ce contretemps, nous délibérions sur ce qu'il fallait faire, quelques gouttes de pluie emportées par la rafale nous fouettèrent le visage. « Il n'y a plus à songer à se mettre en route, » dit le taupier. « Faut que ces messieurs viennent à la closerie. »« Est-ce bien loin ? » demandai-je. « Là, là, tout contre, au bout de la chaînée. » Je regardai l'avoué. « Ben, nous ne pouvons choisir, dit-il, allons provisoirement à la closerie. »« Alors, sauf qui peut, s'écria Jean, voici la cas. » À ces mots, il rentra la tête dans ses épaules, arrondit le dos, cacha ses mains sous ses aisselles et se mit à courir vers la chaînée. Au même instant, toutes les cataractes du ciel semblèrent s'ouvrir. Les gouttes de pluie tombaient si larges et si pressées qu'elles paraissaient se continuer l'une l'autre et formaient un véritable voile liquide dont nous étions enveloppés. L'eau qui tombait sur nous à flots rejaillissait en cascade le long de nos montures. La surprise et le bruit de cette inondation nous avaient étourdis. Nous ne commençâmes à nous reconnaître qu'en atteignant le bois de chêne. Là, grâce au feuillage touffu, la pluie qui frappait obliquement n'avait pénétré que dans la lisière tournée à l'ouest. Au bout de quelques pas, nous nous trouvâmes presque complètement à l'abri. Maître Jean s'arrêta en se secouant. « Eh bien, en voilà une arrosée !» s'écria-t-il avec un éclat de rire. « Faut que tous les moulins du bon Dieu aient ouvert leurs écluses du même coup !» « Oh, je suis percé jusqu'aux os !» dit mon compagnon, à qui ce déluge avait donné le frisson. « Bon, la closerie est au bout de la futaie, » fit observer le taupier, « et une flambée de fagots nous aura bientôt séchés. » L'avoué demanda s'il ne serait pas plus sage de regagner ma mère par la route de traverse. « Oh, bien oui !» dit Maître Jean, « mais faudrait qu'il y ait encore une route !» « Mettez-moi un peu la tête à la fenêtre pour voir !» Il nous indiquait une percée par laquelle on apercevait la campagne. Tout y était noyé. L'eau coulait à travers les sillons comme dans des canaux et dégorgeait de toutes parts dans les douves débordées. Les chemins avaient été transformés en lits de torrents. L'inondation emportait les chaumes fleuris, les bois épars, les arbustes déracinés, et roulaient ces vagues jaunâtres avec mille rumeurs, tandis que la chaînée, ébranlée par le vent, gémissait sourdement dans ses profondeurs. Le retour à ma mère était évidemment impossible. Il fallait accepter l'hospitalité du taupier. Nous aperçûmes bientôt sa closerie placée à mi-côte. Sa maison, comme l'eût dit Virgile, pendait au flanc du coteau. Elle était précédée d'une petite aire à battre, et derrière s'étendait un jardin de forme irrégulière qu'enfermait une haie de cytis et de sureaux. Le tout nous apparaissait au bout de l'avenue de chêne que nous suivions, encadré dans les derniers rameaux, comme la vignette de quelque églogue illustrée par le burin anglais. La brièveté de la cas avait été proportionnée à sa violence. Il semblait déjà toucher à sa fin, et quelques lueurs du soleil couchant rayaient l'horizon. Un de ces jets lumineux tomba tout à coup sur la closerie, qui, encore baignée des eaux de l'orage, scintilla sous ce rayon inattendu. Je ralentis le pas, malgré moi, pour contempler le charmant aspect qu'offrait la maisonnette rustique à moitié sortie du déluge. Mais mon regard, en se promenant du toit rongé de mousse à la vieille touffe d'aubépine qui ombrageait la porte, s'arrêta sur un objet qui ne put d'abord bien définir. C'était comme une forme humaine, immobile et accroupie sur le seuil. Je reconnus enfin une femme dont les cheveux pendaient en désordre et qui, assise sur la terre, effleurait de ses pieds nus des petites flaques d'eau formées par l'égout des toits. Dès que je pus apercevoir ses traits, je reconnus une de ces pauvres idiotes qui n'ont presque rien conservé de l'espèce humaine. Jean-Marie, qui avait remarqué la direction de mon regard, me dit sans aucune apparence d'embarras « Oh, c'est la sœur Marthe qui m'attend. Vous osez donc la laisser seule à la garde de la maison ?» demanda mon compagnon. « La maison ne sera jamais mieux gardée, » ajouta le taupier. « Il n'y a pas comme ces innocentes pour être fidèles au logis. Quand je suis parti, qu'il vente ou qu'il neige, Marthe ne quitte jamais le seuil. » Et celui qui voudrait la pousser sans moi serait étranglé comme une mauvie. Regardez plutôt, voilà qu'elle nous a entendus. » L'idiote venait en effet de redresser la tête. Elle semblait aspirer le vent de l'autre côté et fit entendre une sorte de glapissement. Son front déprimé, ses yeux obliques, son menton en fuite, sa peau boursouflée d'un jaune plombé, lui donnait quelque chose de la bête fauve. En nous apercevant, elle se releva d'un bond, comme si elle eût été mue par un ressort, poussa un cri menaçant et avança vers nous les deux poings fermés. Mais à la voix du taupier, elle s'apaisa subitement et courut à sa rencontre en exprimant sa joie par des cris discordants et des gestes désordonnés. Elle tourna plusieurs fois autour de lui avec des gambades, approcha la tête de sa poitrine et de son épaule comme un chien qui caresse, courut en avant puis revint les bras levés en signe d'allégresse. Pendant tous ces mouvements, sa figure restait impassible et sauvage. La sensation semblait comme enfouie dans le chaos de ses traits confus. On eût dit le visage d'une statue mutilée dont l'expression avait disparu sous le marteau. Jean-Marie lui adressa quelques mots affectueux, l'écarta doucement du seuil où elle s'était replacée et nous fit entrer. Il nous invita à nous approcher du foyer en se hâtant d'y jeter une bourrée de traînes dans lesquelles le feu courut aussitôt avec des pétillements. À la vue de la flamme, Marthe poussa un gros grognement de joie et alla s'accroupir au coin le plus reculé de l'âtre et incrustée, pour ainsi dire, dans le mur noirci et à demi voilé par le nuage de fumée qui commençait à dérouler ses spirales bleuâtres. Cette figure ébauchée avait une apparence fantastique dont nous fûmes saisis. L'avoué s'étonna que maître Jean eût pu s'accoutumer à une pareille compagnie. « C'est tout ce qui me reste de parents, » répondit le taupier. « À sauter, comme vous la voyez, elle me rappelle encore ce que j'ai perdu, et le proverbe dit qu'une veuve toujours trouve toujours assez beau son dernier enfant. Puis, quand on rentre tout seul sur le soir, et qu'on ne trouve chez soi ni aucune créature vivante, les quatre murs de la maison vous pèsent comme si vous les portiez. Marthe, du moins, fait que je ne crois pas le monde fini. Elle me reconnaît, elle me parle à sa manière. Même de penser qu'elle est mauvaise avec tous les autres, ça me fait lui vouloir plus de bien. Ça n'a pas de raison, mais chacun a ainsi dans le cœur sa fantaisie. On eût pu croire que l'idiote comprenait ce qui se disait, car elle s'approcha en rampant sur la pierre du foyer et vint s'asseoir près de son frère, la tête appuyée à ses pieds comme un animal domestique. Je regardais avec un mélange d'intérêt et de dégoût cet être difforme chez qui, à défaut des clartés de la raison, brillait encore quelque fugitive lueur de sentiment. Mon attention fut détournée par le chaudronnier qui, en attendant qu'on lui remît les ustensiles à réparer, avait voulu établir son atelier portatif dans l'air. Il rentra pour nous annoncer que le vent avait cessé, mais qu'un épais brouillard couvrait l'horizon au torrent d'eau qui nous avait submergés quelques instants auparavant, venait de succéder une pluie fine et tiède qui tombait silencieusement. Le taupier regarda aux quatre airs de vent et secoua la tête. « Ben, voilà une brouillasse que nous aurons jusqu'à demain matin, » dit-il. « Faudra le coup de balai du vent de 6 heures pour tout nettoyer là-haut. »« Eh bien, mais en attendant, » s'écria l'avoué, « qu'allons-nous devenir, nous autres ?»« Ben, vous resterez sous mon pauvre toit, si ça ne vous fait pas affront, » répliqua le taupier. « Mais il n'y a jamais d'affront à être au sec, maître Jean. Seulement, je crains que nous ne soyons pour vous une grande gêne. J'ai à côté un lit de pèlerin, comme on dit. C'est un peu champêtre pour de gros gens, mais... faute de froment, les alouettes font leur nid dans l'avoine. » En parlant ainsi, il nous ouvrit une porte conduisant dans une petite pièce voisine, dont les murs lézardés disparaissaient sous un rideau de plantes potagères conservées pour graines, et dont les touffes desséchées flottaient çà et là, suspendues à des os de moutons fichés dans la muraille en guise de clous. Une huche à blé et deux barriques défoncées, un banc et un lit complétaient l'ameublement. Comme il n'y avait point à choisir, nous remerciâmes le taupier en déclarant que nous acceptions son hospitalité et nous sortîmes pour visiter nos chevaux dans le petit hangar qui leur servait d'écurie. Jean-Marie les avait débridés et leur avait déjà apporté une partie de l'herbe coupée pour sa vache. Nous y joignîmes quelques poignées d'orge et 2 bottes de paille pour litière. Des fagots dressés à l'une des ouvertures de la grange du côté du vent les mirent à l'abri. Pendant que nous achevions ces préparatifs de campement, la nuit était venue. L'épais brouillard qui avait tout envahi ne laissait briller aucune étoile. La campagne apparaissait comme un abîme obscur, au milieu duquel des taches plus sombres indiquaient les bois. On entendait que le bruit monotone et presque imperceptible de la bruine sur les feuillages. Tout cet ensemble, voilé et silencieux, avait un caractère de tristesse, pour ainsi dire harmonieuse. L'air était plein des âcres parfums qui s'exhalent de la terre humectée et des végétations meurtries par l'orage. Nous restâmes quelque temps appuyés à l'un des piliers de la pontille, les regards plongés dans ces ténèbres au fond desquelles on sentait encore la création. Jean-Marie vint enfin nous prévenir que le souper était servi. Le chaudronnier, qui avait terminé son travail, devait nous tenir compagnie, et nous nous mîmes tous à table dans les meilleures dispositions. La vie réglée de notre vieille société nous condamne à courir presque constamment, comme les wagons sur leur voie ferrée, Et le moindre caprice est un déraillement qui a son danger. Aussi, lorsque le hasard vient nous enlever un instant aux ornières de l'habitude, trouvons-nous à cet imprévu toute la saveur de la nouveauté. Tandis que pour le trappeur américain, la descente d'une cataracte paraît une simple circonstance de voyage, et la rencontre des Indiens, scalpeurs, un incident vulgaire. Pour nous, voyageurs civilisés, une averse qui nous surprend sans manteau est une aventure. La nuit passée au foyer d'une closerie, un roman complet. C'est qu'à vrai dire, ce peuple de paysans qui entoure nos villes nous est presque aussi inconnu que l'Indien peau-rouge aux touristes qui se rend en poste de New York à Boston. Nous l'avons bien aperçu en passant, courbé sur sa faucille ou sur ses sillons. Peut-être même nous sommes-nous arrêtés pour esquisser son toit de chaume doré par le soleil couchant, mais quel citadin pénètre dans sa vie intérieure, apprend sa langue, comprend sa philosophie, écoute ses traditions. Nos campagnes ressemblent à ces manuscrits d'Herculanum qu'on n'a point encore déroulés. À peine en connaît-on de courts fragments, copiés en passant par quelques curieux. Le poème entier reste à traduire. Je m'étais placé à table près du chercheur de trésors, espérant obtenir de lui quelques nouvelles confidences. Mais il était rentré dans son laconisme comme dans une forteresse inexpugnable. Il fallut se rabattre sur le sourcier, qui avait heureusement gardé sa gaieté communicative et qui continuait de répondre à toutes mes questions. À la vérité, ses réponses n'étaient pas toujours directes. Jean-Marie était né trop près de la Normandie pour ne pas connaître l'art des phrases qui, comme le Janus antique, ont deux visages contraires. Par cela même, cependant que la conversation était avec lui une sorte de Colin Maillard, où l'on cherchait toujours à tâtons la vérité, il en résultait plus d'excitation et de mouvement. Pendant le repas, Marthe vint s'asseoir par terre à côté de lui, une main posée sur ses genoux et la tête appuyée à cette main comme un enfant qui dort. Elle l'avertissait de temps en temps de sa présence par un petit cri plaintif, et Jean lui tendait sa part du souper. En l'observant, il me sembla qu'elle ne mangeait point avec la brutale avidité ordinaire aux idiots, et que sa joie venait moins de la nourriture que de la main qui le lui offrait. Par instants, elle relevait la tête vers son frère, et à travers l'hébétement de son grand œil bleu, passait je ne sais quelle lueur de tendresse. On surprenait encore, sous ses traits et dans ses mouvements, où le jeu des muscles avait remplacé l'intelligence, un vestige confus des races de la femme. Le vase détruit et souillé avait conservé quelque imperceptible senteur du parfum évaporé. Jean-Marie nous apprit que l'idiotisme de Marthe ne remontait point à sa naissance. D'esprit lent et faible jusqu'à l'âge de 12 ans, elle regagnait par le cœur ce qui lui manquait en intelligence. On n'avait jamais pu l'appliquer à aucun travail, ni lui confier aucune responsabilité. Mais pour Jean-Marie et pour sa mère, qui vivait encore, elle eût gravi les rochers, percé les haies, traversé les rivières. Son attachement ressemblait à celui du chien. Il était silencieux, spontané et, pour ainsi dire, involontaire. L'incendie de la maison qu'elle habitait avec sa famille ébranla son faible cerveau. Son intelligence baissa de jour en jour comme l'eau fuyant du vase qu'un choc a fêlé. Les années se succédèrent et, au lieu de monter comme les autres enfants de son âge, du crépuscule au plein soleil, elle descendit toujours et s'enfonça de plus en plus dans les ténèbres. Enfin, on en était arrivé où nous la voyions. Cependant, le taupier ne paraissait point avoir renoncé à la guérison. Son ignorance soutenait son espoir. Il nous apprit que Marthe avait parfois des retours, sinon de raison, du moins de souvenirs. Habituellement muette, elle retrouvait alors le nom de son frère et l'appelait avec le même accent qu'autrefois. Mais des circonstances extrêmes pouvaient seules provoquer ces rapides éclairs de mémoire. Claude, qui avait paru prendre peu d'intérêt à ces explications, continuait à manger sans rien dire. Deux ou trois fois, son œil s'était porté sur l'idiote. Je n'y avais même pas surpris cet intérêt ordinaire du paysan pour ceux que l'on désigne dans nos campagnes sous le nom de saints innocents. Absorbé dans sa distraction méditative, il semblait suivre d'un regard persistant quelque image invisible à tous les autres yeux. Le souper fini, il se leva le premier et alla sur le seuil examiner le temps. Nous nous étions approchés du foyer où mon compagnon avait allumé un cigare dont la fumée nous enveloppait déjà de son âcre parfum, lorsque le rouleur revint à nous et se mit à réunir les différentes pièces de son atelier portatif. Je lui demandai s'il allait partir. « Oh, tout à l'heure, » répliqua-t-il en apprêtant les bretelles de sa hotte. « Malgré la pluie, » reprit l'avoué. Il haussa les épaules en lui indiquant du regard ses mains desséchées auxquelles les injures de l'air avaient donné la teinte du bronze de Florence et qui semblaient en avoir l'imperméabilité. « Bon, ce cuir-là ne craint rien, » dit-il brièvement. « Et où allez-vous » demandai-je. Il nomma un village éloigné de deux lieues. Jean-Marie fit observer qu'il trouverait les routes noyées. Il répondit qu'il prendrait par les champs. Le taupier secoua la tête. « C'est un chemin plus commode pour les lièvres que pour un homme chargé, » dit-il. « Si le fils de votre mère avait un peu de sens, il ne demanderait deux bottes de paille pour passer ici la nuit. »« Le fils de ma mère a son idée, » répliqua sèchement Claude, qui achevait ses préparatifs. Le taupier ne parut ni surpris ni blessé de cette brusque réponse. Il regarda son hôte avec l'espèce de déférence qu'il m'avait paru lui montrer dès l'abord. « Vous êtes votre maître, rouleur, » reprit-il tranquillement. « Mais on ne se sépare point comme ça avant d'avoir bu le coup de soleil. » À ces mots, il ouvrit une armoire d'où il tira une bouteille d'eau-de-vie presque pleine, et il en versa dans chaque verre. Nous trinquâmes en adressant à Claude un souhait d'heureux voyage. Mon compagnon répéta pour lui la prière populaire de Saint Bonsens, demandant à Dieu de le préserver des hommes de la cour, des femmes de la ville et des loups des champs. « Monsieur veut rire, » dit Jean-Marie à l'avoué. « Mais que je devienne normand, s'il n'est pas cru hier voir un loup tout près de la closerie. Je suis rentré prendre mon fusil, j'ai suivi la bête tout le long de la grande haie, j'allais lui envoyer mes chevrotines quand elle a aboyé. C'était un chien, ou une espèce que je n'ai jamais vue dans le pays. » Une sorte d'interjection étouffée me fit retourner la tête. Le rouleur était immobile à quelques pas, son bras passé dans la bretelle de sa hotte et l'autre en avant. « Un chien fauve ?» répéta-t-il avec une sorte d'hésitation. « Mais oreille droite !» ajouta le taupier. « Le museau effilé ? Oh, la queue, balayant la terre ? Et vous dites que vous l'avez rencontré hier ? Ah oui, puisque je l'ai suivi. Alors vous savez ce qu'il est devenu? Oh, je l'ai vu se terrer dans la grande butte. » Claude baissa la tête sans répondre. Mais son bras se dégagea lentement de la bricole et il alla s'asseoir au foyer d'un air pensif. « Vous ne partez donc plus ?» lui demandai-je. Oh, tout à l'heure, répondit-il en s'asseyant sur l'âtre et étendant machinalement ses mains vers la flamme mourante. Jean-Marie fit alors observer que la bruine serait peut-être balayée par le vent de minuit. Et le rouleur ne parut pas éloigné de retarder son départ jusqu'à 7 heures. Notre hôte voulut remplir une seconde fois les verres, mais nous nous hâtâmes de poser la main sur les nôtres, et afin d'échapper à de nouvelles instances, nous nous décidâmes à nous retirer. L'humidité de nos vêtements, imparfaitement séchés par la flamme du foyer, commençait d'ailleurs à nous faire éprouver un malaise qui se traduisait par un invincible besoin de sommeil. Heureusement, notre lit, qui n'était composé que d'une paillasse et d'une couette de balle, était assez large pour deux. Nous résolûmes de nous y étendre, tout habillés, après avoir fraternellement partagé les couvertures vertes qui l'enveloppaient. Au moment de refermer la porte de communication que nous avions laissée ouverte pour profiter de la lumière, je jetai un dernier regard vers le foyer. Jean-Marie et Claude étaient assis en face l'un de l'autre. Le premier, bien nourri, bien vêtu et le visage fleuri, vidait son verre à petits coups en fredonnant la ronde des noces. Le second, maigre, déguenillé, le front plissé, avait tout bu d'un trait et regardait à ses pieds d'un air sombre. Je fis remarquer ce contraste à mon compagnon. « Ne vous en étonnez pas, me dit-il. Vous avez là le chasseur de sottises et le chasseur de chimères. Celui-là moissonne dans le champ fécond de la crédulité humaine. Celui-ci est à la recherche de cette terre promise où l'on n'arrive jamais. Celui qui chante et qui savoure est le soldat du mensonge, toujours vainqueur et joyeux. Celui qui se tait est le pèlerin de l'idéal, toujours haletant et trompé. Bien que chacun de nous se fût roulé dans sa couverture, le froid nous empêcha pendant quelque temps de dormir. J'entendis enfin la respiration de mon compagnon prendre ces intonations sonores et régulières qui annoncent le sommeil, et moi-même je ne tardais pas à l'imiter. Mais une espèce de fièvre avait insensiblement succédé au froid. Les lassitudes douloureuses que j'éprouvais dans tout le corps se traduisirent, comme d'habitude, en un rêve destiné à les justifier. Mon imagination mêla le souvenir de la réalité aux plus folles inventions. Il me sembla que je m'étais égaré dans un pays inconnu, que j'étais recueilli dans une maison dont les hôtes méditaient quelques projets sinistres. J'entendais verrouiller ma chambre dehors. Un pan de mur s'ouvrait et laissait passer des ombres qui s'avançaient silencieusement vers moi. Je voulais appeler et une main s'appuyait sur mes lèvres. Je voulais m'élancer du lit et des bras m'y retenaient enchaînés. Je m'épuisais en efforts désespérés jusqu'à ce qu'un redoublement d'énergie me fît enfin pousser un cri qui me réveilla. Je me redressais sur mon séant. J'étais seul. Mon compagnon continuait à dormir paisiblement. Ce n'était donc qu'un rêve. Je poussai un soupir de soulagement. Tout à coup, un bruit de pas se fit entendre à la porte. Je prêtai l'oreille. Quelqu'un était là. Et j'entendis la voix du sourcier qui disait « Ils dorment !» Celle du rouleur répondit plus bas « N'importe !» Puis la clé fut tournée et le pêne glissa dans la serrure et les pays s'éloignèrent. Je me laissai couler à terre et je me dirigeai à tâtons vers la porte. Ma main rencontra le loquet qu'elle leva. Mais je ne m'étais pas trompé. Nous étions enfermés. Un jet de lumière filtrant à travers les planches mal jointes me fit trouver une fissure à laquelle j'appliquai l'œil et je pus voir tout ce qui se passait dans la pièce voisine. Les deux paysans, s'était rassise à la même place, le visage éclairé par la flamme. Jean-Marie avait à ses pieds une bourrée déliée dont il brisait les branches en menus brins. La bouteille d'eau-de-vie, presque vide, était à ses côtés, et il sembla que son teint s'était allumé de couleurs plus vives. Quant au rouleur, penché en avant, il lui parlait à demi-voix d'un ton d'expansion persuasive. Je ne saisis d'abord que des mots entrecoupés, mais je pouvais juger de l'importance de la confidence par le redoublement d'attention du sourcier. Enfin, les voix s'élevèrent insensiblement et quelques lambeaux de phrases arrivèrent jusqu'à moi. Il s'agissait du chien mystérieux suivi par Jean-Marie et que le rouleur lui-même avait aperçu deux fois. Je crus comprendre que ce dernier l'avait reconnu pour le chien de terre préposé par les fantômes à la garde des trésors. Le sourcier laissa échapper une exclamation de surprise, mais qui n'exprimait aucun doute. « Mais pardon, baptême, alors notre fortune est faite » s'écria-t-il. « Oh, pour ça, faut pas que les hommes de loi s'en doutent, » dit Claude, en jetant un regard vers la porte de communication. « Et voilà pourquoi j'ai mis les bourgeois sous clé. À 7 heures, le gibier est à nous. » Mais il n'y a point de part pour le roi. Partons, rouleur, dit Jean-Marie qui s'est élevé. Une minute, reprit Claude, faut d'abord s'entendre. T'es sûr de reconnaître l'endroit où le chien s'est erré? Oui, c'est à la petite pierrière. Mais le trésor sera caché. Bon, c'est la conjuration qui le rendra visible. Il faudra plus que quelques coups de pioche. « J'ai notre affaire, » dit le sourcier, en saisissant un noyau derrière un tas de bourrées. « Allez, en route, vieux, mais surtout, pas de tour de Normand. »« Ne crains rien, » répliqua Claude. « Si on trouve le magot, on ne se quittera pas. »« Non, on y regardera qu'au retour. »« Mais ce sera toi qui le tirera du trou et qui l'apportera. »« Convenu, » dit Jean-Marie, qui jeta le hoyau sur ses épaules et fit un pas pour sortir. Mais, se ravisant tout à coup, « Oh, un moment, s'écria-t-il, j'avais oublié, moi. Le premier qui touche au trésor des trépassés doit mourir dans l'année. »« Oh, tu sais ça ?» dit Claude en tressaillant. « Mais tu espérais m'y prendre, mauvais brigand ?» reprit le taupier avec emportement. « Faut que quelqu'un se dévoue !» objecta le rouleur d'un accent convaincu. « Mais que le diable me brûle si c'est moi !» s'écria Jean-Marie. « Ah, tu voulais me faire manger de la mort pour avoir ensuite part à toi seul. Hors d'ici, vagabond, j'aime encore mieux ma peau que ton trésor. »« Ah, ta fantaisie !» dit le rouleur, qui savait sans doute que le plus mauvais moyen de ramener un homme en colère était de lui donner des raisons. Et il rechargea sa hotte avec une sorte d'indifférence, prit son bâton et se dirigea vers la porte. Jean-Marie, qui l'avait laissé faire en grommelant, le regarda sortir. Il parut hésiter un instant, puis finit par le suivre. J'avais cessé de les voir, mais le bruit de leur voix m'avait bientôt averti que tous deux s'étaient arrêtés au-delà du seuil. Je fis inutilement un nouvel effort pour ouvrir la porte de communication. Ma curiosité était excitée outre mesure. Je ne pouvais douter que le taupier et Claude n'eussent repris la question du trésor. Et à tout prix, j'aurais voulu entendre le débat, mais je prêtais en vain l'oreille. Aucune parole ne parvenait jusqu'à moi. Je pouvais seulement reconnaître à la voix chaque interlocuteur et préjuger par l'intonation ce qu'il disait. Cette espèce d'interprétation dans laquelle l'imagination avait la plus grande part finit par m'absorber complètement. L'accent du taupier avait été d'abord presque menaçant, celui de Claude bref et absolu. Mais insensiblement, le premier s'était adouci et le second avait perdu sa cassante sécheresse. Maintenant, le rouleur parlait longuement et du ton d'un homme qui veut persuader. Il avait sans doute trouvé quelque expédient qu'il s'efforçait de faire accepter. Le sourcier répondait de loin en loin, comme pour opposer des objections, mais celles-ci devenaient à chaque instant plus rares et plus courtes. Claude gagnait certainement du terrain. J'écoutais sa voix, qui prenait des intonations toujours plus persuasives, et je supposais le plaidoyer que je ne pouvais entendre. Il entretenait son interlocuteur de la découverte du trésor et évoquait, pour le séduire, un de ces rêves que chacun de nous tient caché dans les derniers replis de sa pensée. Il lui montrait peut-être la closerie transformée en ferme à deux charrues, l'enclos d'entrée devenu une aire bordée de grandes meules de froment, la haie du verger reculée de plusieurs vols de chapons. Il faisait entendre le meuglement des vaches revenant le long des sentes vertes, les grelots des attelages qui ramenaient du marché les charrettes vides, et le sifflement cadencé des garçons de labeur dispersés dans les guérets. Mais quelle était la condition imposée à cette espérance? Il fallait bien qu'elle fût bien périlleuse ou bien dure, car le sourcier résistait toujours. Parfois, cependant, le débat cessait, comme s'il eût consenti. J'entendais le rouleur se rapprocher du seuil. Alors Jean-Marie l'arrêtait tout à coup par un nouveau refus, et la discussion reprenait. Enfin, l'obstination de Claude l'emporta. Son interlocuteur parut céder, et tous deux rentrèrent. « Ainsi c'est dit, » murmura le rouleur. « Oui, » répliqua Jean-Marie d'une voix troublée. « Alors plus de retard, nous manquons l'affaire. » Le sourcier traversa la pièce, alla droit à un renfoncement où j'avais remarqué une paillasse et appela Marthe. « Bon, n'entendra pas, elle dort, » fit observer le rouleur. Jean-Marie se pencha pour secouer l'idiote, dont le grognement me prouva bientôt qu'elle était réveillée. « Debout, Marthe, viens avec nous, » dit précipitamment le sourcier. « Nous avons besoin de toi. » Je compris enfin le sujet du débat mystérieux qui s'était prolongé si longtemps. Pour obtenir la possession du trésor, il fallait que quelqu'un se dévoie, ainsi que l'avait déclaré le rouleur. Il avait décidé, Jean-Marie, à sacrifier sa sœur. Cette longue habitude de tendresse dont le témoignage nous avait touché un instant auparavant n'avait pu tenir contre le rayonnement d'une chimérique richesse. Je demeurais saisi, comme si le danger qu'allait courir l'idiote eût eu quelque chose de réel. Quoi qu'il arrivât, désormais, le frère avait en effet échangé la vie de la sœur contre l'espérance d'un peu d'or. J'aurais pu tout arrêter en faisant connaître que j'étais là. Mais je ne sais quelle fièvre de curiosité me retint. Je voulus voir jusqu'au bout cette amère épreuve des affections humaines. Je tenais d'ailleurs à jouir du désappointement qui devait punir ces deux meurtriers d'intention. Ils avaient réussi à faire lever Marthe et à l'emmener à moitié endormie. Dès qu'ils eurent disparu, je courus réveiller mon compagnon à qui je racontai rapidement ce qui s'était passé. « Mais vite, suivons-les, » dit-il en se jetant à bas du lit. Je lui fis observer que la porte était fermée. « Mais voyons la fenêtre, » s'écria-t-il. Nous la cherchâmes dans l'obscurité. Elle était garnie d'un fort treillis. Il fallut revenir à la porte et réunir nos efforts contre la serrure, mais ce fut peine inutile. L'avoué se mit à faire le tour de la pièce en suivant le mur, dans l'espoir de découvrir quelque issue. et tout à coup, je l'entendis s'écrier « Oh, nous sommes sauvés !»« Vous avez trouvé une seconde fenêtre ?» demandai-je. « Mieux que cela, j'ai un levier !» Il vint me rejoindre, plaça la barre de fer sous le battant, et en deux ou trois secousses, l'enleva de ses gonds. Je l'aidai à le ranger de côté, et nous gagnâmes la porte extérieure. Toutes ces opérations avaient demandé du temps. Lorsque nous arrivâmes dans la petite cour d'entrée, nous ne vîmes plus personne, et nous cherchâmes en vain à reconnaître la direction prise par l'idiote et ses deux conducteurs. Ils avaient bien parlé des petites pierrières, mais mon compagnon n'en connaissait pas mieux que moi la position. Nous nous consultions depuis quelques instants sur ce qu'il fallait faire, lorsqu'un sourd retentissement ébranla tout à coup la colline et fut suivi de deux cris de détresse. « Oh, qu'est-ce que cela ?» demandai-je en tressaillant. « Ben, il m'a semblé reconnaître la voix du rouleur et celle de Jean-Marie, » dit l'avoué. Nous courûmes dans la direction que les cris nous indiquaient, mais nous fûmes bientôt arrêtés par une haie. Il fallut revenir sur nos pas et faire un long détour. Enfin, nous aperçûmes un chemin creux dans lequel nous nous engageâmes rapidement. À peine avions-nous fait quelques centaines de pas qu'une forme étrange apparut dans la nuit au détour de la route, et nous reconnûmes le sourcier portant l'idiote dans ses bras. Nous lui demandâmes ce qu'il y avait. « La pierrière ! » bégaya-t-il haletant. « Nous avons voulu élargir l'entrée, et tout a croulé sur Marthe. Place, place !» Il continuait à courir vers la closerie aussi vite que son fardeau le lui permettait. Nous le suivîmes sans pouvoir obtenir d'autres explications. En arrivant à la maison, il déposa l'idiote près de l'âtre et se hâta de lui mettre une chandelle de résine. Alors nous pûmes apprécier la gravité de l'accident. Arraché de dessous les décombres qu'il avait ensevelis, Marthe était inondée de boue et de sang. Une plaie hideuse lui partageait le front. Ses vêtements en lambeaux laissaient voir des épaules marbrées de contusion, et un de ses bras pendait brisé. Jean-Marie, penché sur elle, la regardait pétrifié d'horreur. La chandelle qui tremblait dans sa main laissait tomber sur le visage de l'idiote des gouttes de résine fondue. L'avoué courut chercher de l'eau et nous nous mîmes à laver la plaie avec nos mouchoirs. L'idiote poussa un soupir. « Elle vit encore !» s'écria mon compagnon. « Relevez-lui la tête et tâchez de la faire boire !» Nous exécutâmes sa double prescription. Après les premières gorgées d'eau, Marthe parut se ranimer. Je tenais un mouchoir mouillé sur la blessure afin d'empêcher le sang de l'aveugler. Elle ouvrit les yeux et nous regarda. Je fus frappé de l'expression d'intelligence qui se reflétait dans sa prunelle contractée. Tous les muscles de la face semblaient se raidir dans un suprême effort. Son œil s'arrêta, enfui sur le sourcier. Un inexprimable sentiment de joie épanouit subitement ses traits, et elle appela distinctement « Jean-Marie !» À ce nom, celui-ci se redressa comme si un fer aigu l'eût frappé. « Avez-vous entendu ? » s'écria-t-il épouvanté. « Elle vous a nommé, » dit mon compagnon. « Oh, c'est qu'elle va mourir !» reprit Jean-Marie, avec une conviction si profonde que nous en fûmes saisis. Je cherchais à le dissuader en demandant s'il n'était point possible de se procurer un médecin. Le sourcier ne me répondit pas. Assis sur l'âtre, les deux mains jointes, il regardait Marthe d'un air effaré en répétant « Elle va mourir !» Impatienté, j'adressai ma demande à l'avoué. Celui-ci secoua la tête. Les médecins n'ont plus rien à faire ici, dit-il. N'entendez-vous pas le râle? La respiration de l'idiote s'était en effet changée en un sifflement rauque et pressé. Son agonie se prolongea environ un quart d'heure, puis la tête retomba en arrière dans une dernière convulsion. En nous voyant reculer de quelques pas, Jean-Marie comprit que tout était fini. Mais il ne quitta ni sa place ni son attitude. La morte était entre nous, étendue à terre, la tête appuyée sur la pierre de la cheminée. Ses cheveux humides de sang roulaient épars jusque dans les cendres du foyer. Quelques lueurs dernières, qui se ranimaient par instants, puis s'éteignaient, faisaient passer tour à tour sur son visage des jets de lumière et d'ombre. Il y avait dans ce spectacle quelque chose de si cruellement sinistre que, saisissant par le bras mon compagnon, je l'entraînai hors de la closerie. Nous tombâmes d'accord que nous ne pouvions être d'aucune utilité au sourcier et que le mieux était de lui envoyer quelques parents ou quelques amis que nous avertirions à notre passage dans le hameau voisin. Lorsque l'avoué rentra, Jean-Marie lui-même le pressa de partir. Peut-être la crainte de nos questions, jointe au sentiment de sa faute, lui faisait-elle désirer notre éloignement. De mon côté, j'éprouvais une sorte d'oppression entre la douleur du frère et le cadavre de la sœur. Nos chevaux furent bientôt sellés et après avoir pris rapidement congé, nous nous engageâmes dans une route de traverse que notre hôte nous indiqua. Le vent de minuit avait nettoyé le ciel, dont la voûte d'un bleu sombre apparaissait alors parsemée d'étoiles. La nuit avait cette transparence veloutée particulière aux lueurs crépusculaires. À chaque rafale de la brise, les arbres secouaient leurs têtes humides et faisaient pleuvoir de lourdes ondées qui grésillaient sur les buissons. J'avais le cœur serré et la tête en feu. Cet air frais me soulagea, je respirais plus à l'aise. Nos chevaux marchaient le front sur l'herbe d'un chemin désert, sans que l'on entendît le bruit de leurs pas. Nous-mêmes, nous gardions le silence, encore émus du spectacle que nous quittions. Arrivés à un carrefour, nous tournâmes à droite, et selon la recommandation du taupier, en nous rapprochant de la colline, mais tout à coup, les chevaux tendirent le cou, puis s'arrêtèrent. Un éboulement récent barrait le chemin. Oh, c'est sans doute la petite Pierrière, dit mon compagnon. Et il toucha sa monture de l'éperon pour la forcer à approcher. Mais au bruit des fers contre les cailloux, une ombre s'élança de la crevasse qui s'éventrait le coteau, rencontra un rayon de la clarté stellaire et nous reconnûmes les traits inflexibles du rouleur. Il nous aperçut, se jeta dans un sentier qui traversait la friche et disparut. « L'avez-vous reconnu ? » m'écriai-je en me tournant vers mon compagnon. « Oui, c'est Claude. » Mais que pouvait-il faire encore là? Il cherchait le trésor. Quoi? Même après cette mort? Mais dites, à cause d'elle? N'est-elle pas une des conditions de la découverte? Vous ne connaissez pas l'implacable ténacité de ces chasseurs de rêves. Pour arriver au but qui fuit devant eux, ils ne regardent point si leurs pieds marchent dans les ruines ou dans le sang. Livrés à une seule idée, comme les possédés du démon, ils ne voient rien autre chose. Éclatants ou obscurs, vous les trouverez toujours les mêmes. Le nom seul changera. Et, selon qu'ils voudront poursuivre l'égalité, la gloire ou la richesse, vous les entendrez appeler Marat, Érostrate, ou le rouleur.